Simon-Pierre, sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Wollaston, édition 1950. Chapitre 1er. Conversion. Jean 1, versets 19 à 42.
Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa, et ne nia pas, et confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais, « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit témoignage disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Et ils lui dirent, « Rabbi, » ce qui interprété signifie maître, « Où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait ouï parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui interprété est Christ. » Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre. »
Ce passage du quatrième évangile nous présente sans doute le moment où Simon-Pierre, le pêcheur de Bethsaïda, vit le Seigneur Jésus pour la première fois et apprit à le connaître. Aucun événement dans la vie d'un homme n'offre une plus grande importance, le moment où il entre en contact personnel avec son Sauveur. Aussi, chacun de nos cœurs devrait-il se poser cette question et y répondre devant Dieu, « Ai-je affaire avec ce Sauveur vivant ?» Quelle joie dut éprouver André ce jour-là en amenant son frère à Jésus, en lui faisant rencontrer son Sauveur. Voyons maintenant comment cet homme au cœur si chaud, Simon, le fils de Jonas, connut le Seigneur, car les anneaux de la chaîne qui conduisent à la conversion, que ce soit les siens, les vôtres ou les miens, sont toujours très intéressants. À cette époque, Dieu avait envoyé un serviteur à Israël afin de réveiller le peuple dans le pays tout entier. Ce n'était pas un prophète au doux langage que Jean-Baptiste. Il dévoilait à ses auditeurs leurs péchés et leurs misères, et pourtant des multitudes se rassemblaient autour de lui. Voir Matthieu 3, versets 1 à 12, jusqu'à ce qu'il pût les abandonner au Sauveur. Matthieu 3, versets 1 à 12.
Or, en ces jours-là vient Jean le baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Or Jean lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance, et ne pensez pas de dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. » Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son aire, et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. »
Jean prêchait la repentance.
« Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. »
Paroles incisives, propres à atteindre les consciences. Ainsi éveillés à la perspective du jugement à venir, ils interrogent.
« Que faut-il que nous fassions ?»
Voir Luc 3, versets 1 à 14. Et la réponse leur parvient énergique, sans embâge. Luc 3, versets 1 à 14.
Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, et Hérode tétrarque de la Galilée, et Philippe son frère tétrarque de Liturée et de la contrée de Traconite, et Lysanias tétrarque de la Bilène, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, la parole de Dieu vint à Jean, le fils de Zacharie, au désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péché, comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis que Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. Et déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant, « Que faut-il donc que nous fassions ? » Et répondant, il leur dit, « Que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés. Et ils lui dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ? » Et il leur dit, « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que faut-il que nous fassions ? » Et il leur dit, « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. »
Au publicain Jean-Baptiste recommandait, « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Aux soldats, il disait, « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. » Et encore, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. » Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Dans un sens, Jean prédisait ainsi la ruine de la nation. Si la cognée était mise à la racine de l'arbre, elle dévoilerait l'état intérieur et peut-être même la pourriture du cœur de l'arbre. Si la cognée de la parole de Dieu ouvre, ainsi qu'elle le fait, le cœur de l'homme, elle prouve qu'il est corrompu jusqu'à la moelle. Voir Marc 7, versets 20 et 23.
Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme.
Marc 7, verset 23.
Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme.
Jean usait d'un langage sévère quand les multitudes s'assemblaient autour de lui.
Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient?
Cette admonestation ne tombait pas seulement dans les oreilles de gens simples, mais aussi dans celles de plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, qui cherchaient avidement à échapper à la condamnation de l'enfer. Jean ne pouvait pas donner le pardon à ses auditeurs, ni leur parler de la grâce, mais il les engageait à se repentir sincèrement et à être baptisés dans les eaux du Jourdain, tout en confessant leurs péchés. Pendant qu'il baptisait, vint à lui un homme que Jean connaissait pour être celui qui n'avait pas de péché, le seul homme pur de tout péché qui fut jamais en ce monde, demanda à Jean de le baptiser. Bien que sans souillure, il prit sa place avec le résidu qui se confiait en Dieu. Au moment où il sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux proclama,
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. »
Matthieu 3, verset 17. Peu après, Jean vit Jésus venir un jour à lui, et il lui rendit ce merveilleux témoignage,
« Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais, « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Et Jean rendit témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. » Et moi, j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, que celui-ci est le Fils de Dieu.
Jean 1, verset 29 à 34. Jean avait compris. Celui-là seul pouvait bénir l'homme. Acceptons d'abord l'œuvre expiatoire de l'agneau de Dieu, et nous recevrons ensuite celui qui baptise de l'Esprit Saint. Jésus est celui qui peut ôter nos péchés, il est aussi celui qui donne le Saint-Esprit et qui bénit. Il enlève le péché de deux façons. Pour les siens, il annule leurs péchés en mourant sur la croix. Quant à ceux qui, hélas, le refusent, il les baptise du feu, c'est-à-dire le jugement viendra sur eux. Le premier témoignage de Jean à l'égard de Jésus semble avoir produit peu d'effet. Personne ne suivit le Seigneur. C'est pourquoi de nouveau sa voix s'élève le lendemain et il répète
« Voilà l'agneau de Dieu ».
Jean ne prêche pas ici. Il aimait son maître et considérait sa beauté morale. En prononçant ces mots
« Voilà l'agneau de Dieu »,
il devient le moyen de présenter à l'époux le germe de l'épouse future, symbolisé par le fait que deux de ses propres disciples le quittèrent pour suivre Jésus. L'Église ne sera formée que plus tard. L'un des deux qui entendirent parler Jean était André, et l'autre, peut-être l'auteur de cet évangile, celui qui se nomme seulement sous le nom de « le disciple que Jésus aimait, Jean, le fils de Zébédée ». Jean-Baptiste parlait avec tendresse pendant que ses yeux se reposaient sur l'homme incomparable qu'il connaissait pour être Jéhovah, celui qui venait prendre sur lui toute la question du péché. À l'ouïe de ces mots, « Voilà l'agneau de Dieu », les deux disciples quittèrent Jean pour suivre Jésus. Désormais, Jean disparaît, et Jésus occupe toute la scène. Jésus se retourne, voit les deux disciples qui le suivent et leur dit,
« Que cherchez-vous ? »
Pouvons-nous répondre comme eux,
« Maître, où demeures-tu ? »
C'est-à-dire, nous te désirons, toi, nous désirons savoir où nous pouvons être sûrs de toujours te trouver.
Ils allèrent donc et virent où il demeurait.
Capernaum appelait sa propre ville Matthieu 9, verset 1, et la localité où il accomplit ses œuvres les plus puissantes. Matthieu 9, verset 1.
Et étant monté dans la nacelle, il passa à l'autre rive et vint dans sa propre ville.
Mais c'est aussi celle dont il dut dire à la fin,
« Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. »
Matthieu 11, versets 23 et 24. Plus le privilège est élevé, plus terrible sera le jugement pour ceux qui n'y auront pas répondu.
Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure.
Autrement dit, il restait encore 2 heures de la journée. Oh, 2 heures avec Jésus! Avons-nous essayé de passer 2 heures avec Jésus? Si tel est le cas, nous ferons comme les disciples. Ils cherchent à partager leur joie et rendent témoignage aussitôt. André, cet homme tranquille, dont nous ne savons plus rien, sinon qu'il accompagna le Seigneur jusqu'à la fin, devient le moyen de conversion d'un des hommes les plus éminents parmi les 12. Un homme dont la vie et le ministère occupent une si large place dans les Écritures, et qui fut lui-même, à la Pentecôte, le moyen de la conversion de 3000 personnes en un jour. Quel témoignage magnifique que celui d'André. Il commence par sa famille.
Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon.
Il débute au centre pour continuer dans son entourage. Non seulement il trouve Simon, mais
il le mena à Jésus.
Heureux service. Il me semble entendre ce courageux pécheur dire à son frère, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, viens à lui, Simon, et il vient. » Point n'était besoin d'avoir beaucoup d'intelligence, il s'agissait de connaître une personne à qui André amène son frère. Jésus, l'ayant regardé, dit,
« Tu es Simon, le fils de Jonas. » Tu seras appelé Céphas, qui est interprété Pierre.
Moment solennel dans l'histoire de Pierre. Il arrive dans la présence du Seigneur, et qu'apprend-il? Il apprend que celui qu'il n'avait jamais vu encore, et qui ne l'avait jamais vu lui non plus, n'ignorait rien de tout ce qui le concernait. Jésus savait ce qu'était Pierre, un pécheur. Mais pourquoi le Seigneur, en s'adressant au nouveau venu, change-t-il son nom? Dans l'Ancien Testament, les changements de nom sont fréquents. Dieu changea le nom d'Abraham, de Saraï, de Jacob, Pharaon celui de Joseph, Nebuchadnezzar celui de Daniel et le roi d'Égypte celui du dernier roi de Juda. Le changement de nom suppose que l'on devient le vassal, la propriété de celui qui le fait. Le Seigneur semble dire par là à Simon, « Tu es mien, esprit, corps et âme, et je ferai de toi ce que je veux. »
L'heure vient, et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
Jean 5, verset 25. Ces paroles s'accomplirent dans l'histoire du pêcheur galiléen. Simon entendit la voix du Fils de Dieu. Peut-être bien qu'au moment même il ne comprit pas toute la portée de ces mots, mais plus tard, dans sa première épître, il put écrire «
Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle. »
1 Pierre 2, versets 4 et 5. Qu'est-ce qu'une pierre? Une parcelle de rocher. Qu'est un chrétien? Une parcelle de Christ, car il est membre du corps de Christ. Les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ sont liés, unis à lui. Pierre a pris cette vérité, peu à peu il est vrai, mais plus tard, il en réalisa toute la nécessité et toute la bénédiction. Dans ce passage, il veut dire que Christ nous communique cette vie qui est la sienne. Nous faisons ainsi partie intégrante de cette maison que Dieu construit. Être une pierre vivante, n'est-ce pas une chose très différente que d'être un pécheur mort? Comment obtenir cette vie? En demeurant en contact personnel avec Jésus. André amena Pierre à Jésus, et Jésus lui dit, « Tu es Céphas, c'est-à-dire Pierre. Tu es une pierre vivante. Et depuis cet instant, tu m'appartiens. » Toute la question du péché a été résolue par la mort de Christ, car, par sa mort, il a annulé le péché et détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Et maintenant, assis à la droite de Dieu, il nous dit, « Regardez à moi, venez à moi. » Si nous allons à lui, non seulement il nous donnera la vie éternelle, mais encore il fera de nous des pierres vivantes. Pierre, ce jour-là, reçut la vie que lui communiqua le Fils de Dieu. Il passa de la mort à la vie, pendant qu'il se tenait devant le Fils de Dieu, et dès cet instant son âme fut pour toujours liée au Seigneur. Il ne nous est pas dit qu'il suivit le Seigneur sitôt converti, mais il fut animé de la vie même de Jésus et devint une pierre vivante. Tel est le récit de la conversion. Chapitre 2 Consécration. Luc, chapitre 5, versets 1 à 11.
Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire, de même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent.
Les événements rapportés dans notre premier chapitre précédaient évidemment d'un certain temps ce qui nous est relaté ici. Bien que converti, l'homme ne commence pas toujours par suivre le Seigneur. Tel fut, semble-t-il, le cas de Simon. Nous ne savons pas s'il accompagna le Seigneur dans ses pérégrinations entre Jean 1 et Luc 5. À tout le moins, même s'il le fit, il dut reprendre ses anciennes habitudes et la vie de pêcheur qu'il menait avant sa rencontre avec le Seigneur. Puis, nous n'entendons plus parler de Pierre jusqu'à ce jour mémorable de son histoire où nous le voyons s'apprêter à suivre Jésus et à tout abandonner dans ce but. C'est ce que nous appellerons sa consécration. Le pêcheur est en plein travail quand survient le Seigneur. Poursuivant son œuvre de grâce et de miséricorde, il utilise la nacelle de Simon pour enseigner les foules avec plus d'aisance. Qu'on se représente cette scène bénie, telle que nous la décrit le Saint-Esprit. Il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Une foule à cet endroit peut facilement s'expliquer, car c'était une des régions les plus populeuses de la Palestine. En regardant à droite depuis le lac, on voyait au loin Capernaum, sa propre ville, tandis que Chorazin, Bethsaïda, Magdala et Tibérias, proches les unes des autres, se succédaient sur la rive ouest du lac bleu, dont les eaux profondes étincelaient sous les rayons du soleil du matin. La flottille rentrait à Bethsaïda, mot qui signifie la maison du poisson, son port d'attache. Pierre, avec l'aide de Jacques et de Jean, et probablement aussi de son frère André, travaillait dans une entreprise importante, puisque des gens à gages restaient au service de Zébédée, après que ces quatre furent appelés à suivre le Seigneur. Voir Marc 1, versets 16 à 20.
Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Et passant de là un peu plus avant, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, et eux étaient dans la nacelle, raccommodant les filets. Et aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la nacelle avec les gens à gages, ils s'en allèrent après lui.
Tout est trouble et agitation en ce qui concerne la vie humaine quand le Seigneur apparaît. Le récit de Luc se rapporte-t-il au même fait que celui mentionné par Matthieu 13, verset 2 ?
Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage.
Quoi qu'il en soit, l'action du Seigneur est significative. Lorsque,
montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, et, s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle.
Luc 5, verset 3. Le but du Seigneur dans ce geste est clair. Il désirait que ceux auxquels il s'adressait puissent l'entendre facilement. Pour chaque petit détail, nous pouvons prendre modèle sur lui. Luc ne nous rend pas compte du sujet traité par le Seigneur dans son discours, mais en supposant que Matthieu 13 se rapporte aux mêmes événements, nous puiserons dans cet évangile nos renseignements complémentaires. Les paroles entendues ce matin-là, Pierre avait lâché le raccommodage de ses filets pour écouter le Seigneur, durent certainement exercer sur lui une grande influence pour la suite de sa vie. Le Fils de Dieu, tel le semeur, répandait libéralement la semence.
La semence est la parole de Dieu.
Le cœur de l'homme est le terrain. Ainsi la graine tomba, ce jour-là, dans le cœur du disciple et produisit du fruit au centuple. Les effets de la parole de Dieu sont toujours à longue portée, quoique le fruit soit parfois lent à paraître. Son discours terminé, le Seigneur se tourne vers Simon avec l'intention de le bénir abondamment. En Jean 1, il avait cherché à lui donner une leçon en lui faisant comprendre ceci. « Pierre, tu m'appartiens. » Mais le pêcheur ne dut pas l'avoir entièrement saisi. Aujourd'hui, il reçoit un autre enseignement. « Pierre, toi et tout ce que tu possèdes, vous m'appartenez. » Jésus était monté dans la nacelle de Pierre sans rien demander, parce qu'elle lui appartenait. Maintenant il commande,
« Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. »
À quoi Pierre répond,
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. »
Simon obéit, il connaît un peu celui qui lui parle, et découvre pour finir que, jamais encore, il n'avait fait une pêche aussi fructueuse. Sa réponse révèle en même temps sa faiblesse et sa foi. Faiblesse en ce qui concerne ses propres efforts, et sa foi en celui qui l'invite à lâcher les filets. On n'attrape pas de poisson à la lumière du jour. C'est pourquoi les pêcheurs tendent leurs filets la nuit. La raison aurait jugé que, n'ayant rien trouvé la nuit précédente, on ne prendrait certainement rien en plein jour. Mais la raison ne joue aucun rôle devant Dieu. La foi seule le comprend. Et l'obéissance de la foi, aussi bien que sa confiance, se manifeste par ces mots,
« Sur ta parole, je lâcherai le filet. »
Tout de suite, il se remplit à se rompre, et Simon doit avoir recours à ses compagnons pour le tirer, si bien que, les deux nacelles enfoncées. Surprise et effrayée par ce miracle, persuadé en même temps de son état de péché, Pierre
se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
Il ne voyait pas, en cet instant, deux nacelles pleines de poissons, mais il distinguait la gloire de Dieu dans le Fils de l'homme, le Messie, le Fils de Dieu. L'obéissance des poissons au Seigneur devait lui rappeler les versets du psaume 8, versets 4 à 8.
« Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme que tu le visites ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et les poissons de la mer, ceux qui passent par les sentiers des mers. »
Il est convaincu de sa culpabilité. Jamais encore son état de péché ne s'était présenté à lui dans toute sa vérité, et il réalisait enfin qui il était. En Jean 1, il avait compris quelque chose touchant la personne même de Jésus. Ici, il fait un pas de plus dans cette connaissance. Mais il devait encore apprendre que, par lui-même, il ne pouvait rien et n'était bon à rien. Sentant son incapacité totale, il s'approche de Jésus autant qu'il peut et s'écrie,
« Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. »
Cette expérience est des plus importantes pour chacun de nous. Jean 1 n'avait pas soulevé la question du péché chez Pierre. Là, tout est grâce. Ici, le Seigneur permet que cette question soit formulée afin d'atteindre la conscience de Simon. En Jean 1, la grâce, se dégageant de la personne même du Seigneur, a attiré le cœur. Ici, c'est un rayon de la gloire divine qui en illumine les plus profonds recoins. L'effet est immédiat, la vie de l'homme tombe dans l'ombre la plus profonde. Pécheur, c'est ainsi qu'il se juge lui-même, d'autant plus parce qu'il n'a pas suivi le Seigneur depuis le jour où il lui parla pour la première fois. Telle est l'œuvre de la grâce. Pierre est convaincu spirituellement, humilié moralement, amené ainsi au jugement de lui-même devant le Seigneur, comme Job quand il s'écriait,
« Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. »
Job 42, versets 5 et 6. Et comme Ésaïe,
« Malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. »
Ésaïe 6, verset 5. L'intrépide pêcheur de Galilée rejoint le patriarche et le prophète dans le chemin de l'humilité et du jugement de soi-même. D'un cœur brisé, il s'écrie,
Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur.
On ne saurait assez apprécier l'importance d'un tel travail dans une âme. Le défaut du jugement de nous-mêmes explique la faiblesse de notre témoignage. La graine ne peut pas pousser de racines dans un terrain non labouré. Plus sera profond le sillon formé par le sentiment de sa propre culpabilité, plus seront profondes les racines, et plus abondera le fruit produit dans les jours à venir. On voudrait discerner davantage ce travail, là où l'Évangile est annoncé. Si une repentance véritable et sincère se produit grâce au travail de l'Esprit-Saint, seulement alors pourra-t-on récolter une moisson au centuple, telle celle que le Seigneur se réjouit d'amasser. Pierre se sentait tout à fait indigne de rester près de Jésus, et pourtant il ne pouvait pas faire sans lui. Ses actions et ses paroles se contredisent étrangement. Il se jeta aux genoux de Jésus, c'est-à-dire qu'il vint aussi près de lui que possible, puis il dit
« Seigneur, retire-toi de moi ».
Il ne supposait pas que le Seigneur s'éloignerait de lui, néanmoins il avait moralement raison. Il se savait profondément indigne de Jésus, mais ne pouvait pas vivre sans lui. Ainsi en est-il toujours pour celui qui prend conscience de la présence du Seigneur. Jésus calme doucement ce cœur troublé en lui disant
« Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. »
Il apaise d'une façon bénie cette âme inquiète.
« Ne crains pas. »
Maintenant encore il dit à tous ceux qui sont tourmentés
« Ne crains pas. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent toutes et le suivirent.
Sans doute, pourrait-on juger Pierre extrêmement imprévoyant et même négligent d'abandonner une aussi riche pêche. Une seule chose compte pour lui, et il répond immédiatement à l'appel du Seigneur.
« Venez après moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. »
Matthieu 4, verset 19, Marc 1, verset 17. Il laisse tout ce qu'il avait apprécié jusqu'alors. Son cœur désire être avec le Seigneur, et avec le Seigneur seulement. Christ éclipse toute autre chose dans son âme. Il quitte tout pour être près de ce Sauveur, pour être son compagnon et son serviteur. Quel choix heureux, quelle soumission bénie de la foi, et quelle réponse dictée par l'affection. Nous ne sommes pas tous appelés, comme Pierre, à laisser une vocation terrestre pour suivre le Seigneur, mais le principe subsiste. La grâce, une fois connue, la paix et la joie remplissent le cœur. La parole divine se fait entendre à nos oreilles.
« Ne crains pas. »
Après une confession sincère. Alors, suivre le Seigneur est le seul chemin sûr et droit pour l'âme née de nouveau. Nous devons briser tout lien avec le monde si nous désirons jouir de la faveur du Seigneur. Se décider fermement pour Christ est de toute importance. Pierre tourna le dos au monde au moment où le monde devenait le plus attrayant et où lui-même aurait pu réussir mieux que jamais. C'est particulièrement remarquable. En général, les hommes s'adressent au Seigneur quand tout leur fait défaut et quand leur vie devient, pour ainsi dire, une faillite. Pierre se consacre au Seigneur et à son service quand ses affaires sont le plus florissantes et que tout paraît contribuer à le faire rester là où il avait trouvé sa joie jusqu'à maintenant. Une éclipse s'est produite. Il est introduit effectivement auprès du Seigneur de gloire, et, dès lors, toutes autres choses disparaissent à ses yeux et deviennent insignifiantes, comparées à la bénédiction qu'il y a à s'approcher et à vivre dans la compagnie de celui qui a dit « Suis-moi ». Chapitre 3. En compagnie de Christ, Marc 1, versets 28 à 37.
Et sa renommée se répandit aussitôt tout alentour dans la Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était là, couchée, ayant la fièvre. et aussitôt il lui parle d'elle, et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit. Et, le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques, et la ville tout entière était rassemblée à la porte, et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. »
Marc 3, versets 13 à 19.
Et il monte sur une montagne, et il appelle ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et il surnomma Simon Pierre, et Jacques le fils de Zébédée, et Jean le frère de Jacques, et il les surnomma Boanergès, ce qui est fils de tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le cananéen, et Judas Iscariote qui aussi le livra.
L'Évangile poursuit l'histoire de Pierre et nous conduit avec le Seigneur dans la maison même de Simon, lors d'une circonstance tout à fait opportune. Il sort de la synagogue où il vient de chasser un esprit immonde hors d'un homme, et aussitôt, un mot caractéristique de Marc, il entre chez Pierre.
La belle-mère de Simon était là couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt il lui parle d'elle.
Quoi de plus naturel que de parler au Seigneur d'une femme malade? D'un mot, il la guérit. On entend souvent dire et on enseigne qu'un homme ne doit pas se marier s'il veut suivre le Seigneur. En peu de mots, nous apprenons que Simon était marié et qu'il était même un homme aux affections assez largement ouvertes pour prendre la mère de sa femme chez lui, dans sa propre maison. À notre époque, où les belles-mères sont si souvent peu appréciées, Dieu nous présente ici un témoignage contraire, et ne nous le rappelle certainement pas pour rien. Comme la femme de Pierre devait trembler, sa mère, ce qu'elle avait peut-être de plus cher à part son mari, car il ne nous est pas parlé d'enfant, était malade avec une forte fièvre. Luc 4, verset 38.
Et s'étant levé, il sortit de la synagogue et entra dans la maison de Simon, et la belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle.
Mais Jésus,
s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta, et elle les servit
au lieu d'être servie. Est-ce par hasard que le Seigneur se rendit dans cette maison à ce moment-là? Certainement pas. Quelques jours auparavant, Pierre avait tout quitté pour suivre le Seigneur. Voyant son mari abandonner son métier, sa femme pouvait, considération très plausible, éprouver de l'anxiété quant à leurs moyens d'existence. Même si elle ne disait rien, elle se demandait peut-être comment allons-nous subvenir à nos besoins. Le Seigneur vient chez elle, dans sa maison. Il prend sa mère par la main et d'un mot la guérit. Ce geste dut suffire pour rassurer sa fille et lui montrer combien Pierre avait raison de suivre le Seigneur sans arrière-pensée. Scène bien typique. Le Seigneur se plaît à faire reposer ses serviteurs, mais il aime leur donner aussi la liberté de le suivre. Il est doux de penser que son regard s'abaisse sur la femme, souvent solitaire à la maison, avec ses charges et ses soucis, pendant que son mari, appelé à agir en public, se trouve nécessairement absent. Femme d'évangéliste, et vous autres servantes du Seigneur, n'oubliez pas qu'il pense à vous. Passant au chapitre 3 de Marc, examinons l'appel spécial que Pierre reçut du Seigneur. Après une nuit passée en prière, Luc 6, verset 12, Jésus choisit ceux qui devaient être ses disciples. Luc 6, verset 12.
Or il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous lisons, il en établit 12 pour être avec lui.
Bien des gens estiment une chose merveilleuse que d'être sauvés, d'échapper à la condamnation de l'enfer, d'aller au ciel. C'est incontestable. Mais dans l'Écriture, aller au ciel signifie toujours être avec une personne.
Absent du corps, présent avec le Seigneur.
De Corinthiens 5, verset 8.
Déloger et être avec Christ, cela est de beaucoup meilleur.
Philippiens 1, verset 23. Tel est le langage des Écritures. Être avec lui, jouir de la présence du Seigneur Jésus-Christ, voilà à quoi Dieu nous appelle. Les disciples, d'une façon toute spéciale, furent appelés à être avec lui. Ici, en Marc 3, verset 16, comme dans tous les évangiles, le nouveau nom de Simon vient en tête de liste pour que notre attention se porte sur lui. Voir Matthieu 10, verset 2.
Or, ce sont ici les noms des 12 apôtres, le premier Simon appelé Pierre et André son frère.
Luc 6, verset 14.
Simon, qu'il nomma aussi Pierre et André son frère.
Jean 21, verset 2.
Simon-Pierre et Thomas appelé Didyme.
Non qu'il fût revêtu d'une autorité ou d'une sorte de primauté quelconque sur ses compagnons, mais son ardeur naturelle, son zèle impulsif et très dévoué le mettaient toujours au premier rang. Une question se pose-t-elle? Pierre généralement la formule. S'il s'agit de rendre témoignage au Seigneur, Pierre est le porte-parole. Sa spontanéité le met bien souvent en danger, et finira même par lui faire renier son Seigneur. Néanmoins, l'histoire de Pierre est un magnifique exemple de dévouement au Seigneur. S'il fait un faux pas, le Seigneur, dans sa fidélité et dans sa sagesse infinie, nous en parle, et le place devant nous comme un signal d'avertissement, de crainte que nous aussi nous n'échouions contre les mêmes écueils. Seul un cœur entièrement dévoué à la personne de Christ nous indiquera le chemin à suivre. Une simple foi ne suffit pas. S'il n'y a pas une véritable affection qui nous rapproche de lui et qui nous ramène à lui rapidement, si nous nous éloignons, notre témoignage est sans valeur pour nous et ne saurait lui plaire. Apprenons la même leçon que Pierre, c'est-à-dire, le Seigneur désire m'avoir avec lui, il désire m'accompagner. Mais le Seigneur poursuit un autre but encore en réunissant les 12 autour de lui. Luc nous le rapporte en ces termes.
Or, il arriva, en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et en ayant choisi 12 d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres, Simon, qu'il nomma aussi Pierre, etc.
Luc 6, versets 12 à 14. Marc dit ceci.
Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons, et il surnomma Simon Pierre.
Marc 3, versets 14 à 16. Remarquons ce qui précède le choix. Lui, le Seigneur de tous et qui connaissait toutes choses, passa toute la nuit à prier Dieu, avant de choisir ses compagnons et de les nommer apôtres. Pour nous, quelle leçon de dépendance de Dieu! Luc seul le mentionne, lui qui fait ressortir le chemin de l'homme parfaitement dépendant. Aussi, ne sommes-nous pas surpris de trouver le Seigneur cette fois en prière dans cet évangile. Luc 3, verset 21.
Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit.
Luc 5, verset 16.
Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait.
Luc 6, verset 12.
Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Luc 9, verset 18.
Et il arriva comme il priait à l'écart que ses disciples étaient avec lui.
Luc 9, verset 28 et 29.
Et il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair.
Luc 11, verset 1.
comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé que quelqu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ».
Luc 22, verset 41.
Et il s'éloigna de lui-même environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait.
Chaque occasion présente une leçon particulière pour nos cœurs. Le nouveau nom de Simon, Pierre, est confirmé et sa vocation apostolique s'affirme, en même temps que nous sommes renseignés sur la signification du terme « apôtre ». Jésus nomme ainsi les 12, nous dit Luc, et Marc ajoute cette explication «
pour les envoyer prêcher et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons ».
Le travail apostolique est parfaitement clair, annoncer Dieu, guérir l'homme et vaincre le diable. Rien d'étonnant à ce que Satan ait cherché à faire trébucher le plus marquant de tous et qu'il ait trouvé son plaisir à entrer dans le plus faible, un voleur et un diable, l'un devenant ainsi un instrument pour déshonorer leur maître, et l'autre l'agent de sa mort. Matthieu chapitre 10 et Luc chapitre 9 situent le moment précis où le Seigneur reporta sur Pierre et les 11 le pouvoir dont nous avons parlé, et les envoie accomplir leur mission. De là, revenons à Marc 6, verset 30, où
les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et ils lui racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné.
Combien le Seigneur apprécie et combien il sympathise aux fatigues endurées pendant ce service, le verset suivant nous le prouve.
Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert et reposez-vous un peu.
Le maître donne à ses serviteurs tout le nécessaire pour accomplir leur tâche, il sait où les envoyer, mais, à leur retour, il prend soin d'eux et les restaure, que ce soit, comme ici, dans la réussite de l'action ou dans l'abattement des difficultés rencontrées. Passons maintenant au chapitre 8 de Luc. Voici de nouveau Pierre au premier plan. Luc 8, versets 40 à 56.
Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Et voici un homme dont le nom était Jaïrus, et il était chef de la synagogue, vint et se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans, et elle se mourait. Et comme il s'en allait, les foules le serraient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui, ayant dépensé tout son bien en médecin, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre dit et ceux qui étaient avec lui, « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant, et, se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, « Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. » Comme il parlait encore, il vient quelqu'un de chez le chef de synagogue, lui disant, « Ta fille est morte, ne tourmente pas le maître. » Et Jésus, l'ayant entendu, lui répondit, disant, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et quand il fut arrivé dans la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et il leur dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors et l'ayant prise par la main, cria, disant, « Jeune fille, lève-toi. » Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement. Et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d'eux. Et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé.
Le Seigneur répond d'une façon merveilleuse à chaque appel et à chaque besoin. Les récits de cet évangile semblent résoudre nos moindres difficultés. Jaïrus, premièrement, vient à la rencontre de Jésus pour lui parler de sa fille mourante. Il reçoit une réponse immédiate. Puis les foules l'entourent et le pressent. Une femme qui avait dépensé tout son avoir en consultant des médecins, sans parvenir à se guérir, vient et touche le bord de son vêtement, exactement comme aujourd'hui. Les gens passent leur vie à écouter toutes sortes de docteurs spirituels, au lieu de venir simplement à Christ. La religion ne peut pas leur assurer le salut, elle les condamnera plutôt. Il faut avoir affaire à un sauveur personnel pour être sauvé. La femme entend parler de Jésus et s'approche. Sitôt qu'elle l'a touché, elle en ressent du bien. Alors elle peut s'avancer et rendre témoignage. Elle avait obtenu ce qu'elle désirait. Elle avait été guérie aussitôt mise en contact avec le sauveur. Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Notre pauvre Pierre, étourdi, ne peut s'empêcher de s'écrier.
« Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. »
Tel est le chemin. Si nous parvenons assez près de lui pour toucher le bord de son vêtement, il use de sa puissance pour nous soulager et nous donner tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur ne nous repousse jamais, il nous encourage à venir à lui, car toujours il apaise l'âme qui s'approche de lui par la foi. La femme confesse ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait, et ce qu'il en est résulté. Elle a foi en sa bonté, en sa miséricorde. Écoutons la réponse du Seigneur.
« Et bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. »
Pierre apprit ce jour-là qu'une foule pouvait enserrer son Seigneur sans que personne ne le touchât réellement, tandis que le moindre contact, par la foi, assure une pleine bénédiction. Puis, dans la maison de Jaïrus, Pierre reçoit un autre enseignement, alors que le Seigneur annule le pouvoir de la mort. Il avait assisté à la guérison de sa belle-mère. Il avait vu la foi agissante pour recevoir la bénédiction, et maintenant il reconnaît celui qui seul peut vaincre la mort, car la mort ne peut exister en sa présence. Jésus seul a pouvoir sur la mort, car il est prince de la vie. Les brigands, crucifiés avec lui, ne purent mourir avant qu'il ne fût mort. En mourant, il brisa les liens de la mort, et il sortit victorieux du tombeau. Dans cette même maison, le Seigneur déploie toute sa puissance et sa gloire morale lorsque, après avoir chassé les moqueurs et les incrédules, il prend la jeune fille par la main en lui disant
« Jeune fille, lève-toi » et il commanda qu'on lui donnât à manger.
Cette scène symbolise les choses encore à venir. Le jour approche rapidement où le Seigneur, comme chez Jaïrus, aura vaincu la mort et pour toujours.
Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort.
1 Corinthiens 15, verset 26. Apocalypse 21, verset 1 à 8 nous décrit cette réalisation.
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il me dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Et je lui serai Dieu et lui me sera fils. » Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations et aux meurtriers et aux fornicateurs et aux magiciens et aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort.
Heureux ceux qui seront les témoins du triomphe final de leur sauveur. Aucun de ceux qui l'ont méprisé ne le verra, car ceux-là seront tous jugés et jetés dehors. Après le jugement du grand trône blanc, Apocalypse chapitre 20, Pierre avec tous les croyants sera témoin de cette victoire finale sur la mort. Chapitre 4. Marchant sur les eaux. Matthieu chapitre 14.
En ce temps-là, Hérode le tétrarque ouï parler de la renommée de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean le baptiseur, il est ressuscité des morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » Car Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hérodias, la femme de Philippe son frère, car Jean lui disait il n'était pas permis de la voir. Et tout en ayant le désir de le faire mourir, il craignait la foule, parce qu'il le tenait pour prophète. Mais lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant tous et plut à Hérode, sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, poussée par sa mère, « Donne-moi ici, dit-elle, dans un plat la tête de Jean le baptiseur. » Et le roi en fut affligé. Mais, à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent. Et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé. Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là dans une nacelle en un lieu désert, à l'écart. Et les foules, l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, il vit une grande foule. Et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Et le soir étant venu, ses disciples vinrent à lui, disant, « Le lieu est désert, et l'heure est déjà passée, renvoie les foules, afin qu'elles s'en aillent au village, et qu'elles s'achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit, « Il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent, vous, donnez-leur à manger. » Mais ils lui disent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il regarda vers le ciel et bénit. Et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste, 12 paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et aussitôt il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive, jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier, et le soir étant venu, il était là seul. Or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant, « C'est un fantôme !» Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant, « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et Pierre lui répondant dit, « Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba, et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent hommage, disant, « Véritablement, tu es le Fils de Dieu !» et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth. Et les hommes de ce lieu-là, l'ayant reconnu, envoyèrent dans tout le pays d'alentour, et on lui apporta tous ceux qui se portaient mal. Et ils le priaient de les laisser toucher seulement le bord de sa robe, et tous ceux qui le touchèrent furent complètement guéris.
Dans ce chapitre, Pierre marche sur les eaux. Cherchons pourquoi. Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste,
et ses disciples vinrent et enlevèrent le corps et l'ensevelirent. Et s'en allant, ils rapportèrent à Jésus ce qui était arrivé.
Il me semble voir là deux groupes de personnes. L'un, les disciples de Jean, attristés d'avoir perdu leur maître. L'autre, les disciples de Jésus revenant de leur première mission, heureux de leur succès. Voir Marc 6, versets 30 et 31.
Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et ils lui racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. »
Les deux groupes se rejoignent en la présence du Seigneur qui les apaise par ces mots,
« Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. »
Quelle grâce dans cet appel! Il s'adresse aussi bien aux travailleurs satisfaits qu'aux disciples découragés. Tous en avaient besoin, mais le désert avec Jésus ne peut pas être un désert. Voici ensuite la multiplication des pains. Nous assistons à la manière dont le Seigneur renvoie les foules, manière de faire très différente de celle des disciples. Eux avaient l'intention de congédier tout ce monde afin qu'ils achètent eux-mêmes leur pain, des milliers d'affamés qui, inévitablement, seraient devenus des témoins contre Christ. Jésus les renvoie heureux, satisfaits, tous témoins de la tendresse de son cœur et de la gloire divine de sa personne. Après quoi le Seigneur contraint les douze à monter dans une nacelle et à passer sur l'autre rive. Remarquons la sagesse merveilleuse du Seigneur. En éloignant ses disciples, il désirait les mettre à l'écart du mal, car Jean, au chapitre 6, versets 14 et 15, nous avertit que les hommes désiraient le faire roi, et que même les apôtres auraient, semble-t-il, souhaité voir leur maître établi sur un trône terrestre. Voir Matthieu 20, versets 20-23 et acte 1, verset 6. Jean, chapitre 6, versets 14 et 15.
Les hommes donc, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. » Jésus donc, sachant qu'ils allaient venir et l'enlever afin de le faire roi, se retira encore sur la montagne, lui tout seul.
Matthieu 20, versets 20-23.
Alors la mère des fils de Zébédée vint à lui avec ses fils, lui rendant hommage et lui demandant quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils que voici s'asseyent l'un à ta droite et l'un à ta gauche dans ton royaume. » Et Jésus répondant dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Et il leur dit, « Vous boirez bien ma coupe. Mais de s'asseoir à ma droite et à ma gauche n'est pas à moi pour le donner, sinon à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. »
Acte 1, verset 6.
Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël ?»
Le Seigneur ne pouvait accepter un royaume, pas plus qu'il ne pouvait régner tant que subsiste le péché. Les disciples envisageaient constamment le royaume terrestre, mais le Seigneur savait qu'il devait mourir pour expier nos péchés avant de l'établir. C'est pourquoi il juge bon d'éloigner ses disciples de la tentation. Lui, pendant ce temps, monte sur la montagne pour prier. Pour nous, nous le trouvons encore là maintenant, intercédant pour nous, car l'Écriture dit,
« Étant toujours vivant pour intercéder pour eux. »
Hébreux 7, verset 25. Les apôtres, renvoyés dans la soirée, faisaient route vers Capernaum, mais la nacelle était battue par les vagues, et eux se tourmentaient à ramer, ainsi que nous informe Marc 6, verset 48.
et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et ils voulaient passer à côté d'eux.
Le Seigneur vient vers eux à la quatrième veille de la nuit. La distance qu'ils avaient à parcourir n'était guère plus de 17 kilomètres. Or, 9 heures s'étaient écoulées depuis leur départ, et ils ne s'étaient éloignés que de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5 kilomètres. Nous faisons bien peu de progrès si le Seigneur n'est pas avec nous. Le lac de Tibériade est connu pour ses orages soudains et violents. La gravité de la situation et la difficulté pour les disciples d'avancer est très compréhensible si nous nous représentons leur position et les environs. On constate fréquemment sur des lacs intérieurs des tempêtes soudaines et furieuses. Je me souviens d'avoir traversé le lac de Côme un après-midi d'été lumineux. La surface était plane comme du verre. En 1 heure, un orage éclata. Les vagues furent soudainement si violentes qu'aucun petit bateau ne pouvait résister, si bien que nous dûmes attendre jusque tard dans la soirée pour regagner notre but par bateau à vapeur. Les voyageurs en Palestine semblent avoir fait les mêmes observations. Le docteur Thompson, dans son ouvrage bien connu, donne un compte-rendu pittoresque de ses expériences sur le lac de Tibérias. Début de citation. Le soleil venait à peine de se coucher quand le vent commença à souffler sur le lac. Il continua toute la nuit toujours plus violemment, si bien que, lorsque nous abordâmes le lendemain matin, la surface du lac était comme un immense chaudron en ébullition. Pour comprendre les causes de ces tempêtes soudaines et violentes, rappelons-nous que le lac est à basse altitude, 200 mètres environ au-dessous de l'océan. Les vastes plateaux nus du Jolan, très élevés, s'étendent à l'est jusqu'aux contrées solitaires du Haut-Rhin. Note en bas de page, Haut-Rhin, appelé dans la Bible « pays de Bazan », grande plaine au nord-ouest de la Palestine, d'une fertilité extraordinaire, s'élève jusqu'aux montagnes du même nom qui la sépare du désert. Elle est coupée de ravines profondes où les vents s'engouffrent avec violence. Note du traducteur, fin de la note. Et au nord jusqu'au neigeux Hermon, les cours d'eau ont creusé des gorges profondes et sauvages, convergeant au bout du lac et constituant ainsi comme de gigantesques entonnoirs où s'engouffrent les vents froids des montagnes. Lors de la circonstance dont nous venons de parler, nous dressâmes par la suite nos tentes sur le rivage et restâmes 3 jours et 3 nuits exposés à ce vent furieux. Nous dûmes fixer la tente avec des doubles cordes et nous y suspendre fréquemment de tout notre poids pour empêcher que ce tremblant tabernacle ne fût projeté en l'air. Rien d'étonnant à ce que les disciples se fatiguèrent à ramer péniblement toute la nuit. The Land on the Book, page 374, fin de la citation. Mais quelles que fussent leurs difficultés et leurs dangers, le Seigneur veillait sur les siens. Sur la montagne, il intercédait. Et à la quatrième veille, il vient à eux. Jamais il n'oublie les siens dans la peine.
Tenté en toutes choses comme nous, il est à même de secourir.
Hébreux 2, verset 18.
Il peut sympathiser.
Hébreux 4, verset 15.
Et il peut sauver entièrement.
Hébreux 7, verset 25. Il opère ces 3 choses dans cette scène. Capable de secourir, il le prouve en marchant sur la mer. Grâce à sa divine puissance, sa sympathie, il la témoigne par ces mots
« Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur »,
tandis que son pouvoir de sauver se manifeste envers Pierre lorsqu'il crie
« Seigneur, sauve-moi ».
Tel est Jésus, notre Jésus, assis maintenant à la droite de Dieu. Ces incidents terrestres nous permettent d'apercevoir quelques reflets bénis de ce qu'il est. Dans la première partie de ce chapitre, Matthieu chapitre 14, se manifeste la sympathie de son cœur et, lors de la multiplication des pains, la puissance de sa main. Et maintenant, tandis que les apôtres se fatiguent et qu'ils sont misérablement ballottés par les vagues, une voix se fait entendre par-dessus la violence du vent et des vagues.
« C'est moi, n'ayez point de peur. »
À l'ouïe de ces paroles, Pierre, toujours actif, courageux et le cœur débordant d'affection, dit
« Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. » Considérons l'énergie et l'amour de cet homme. Le maître arrive sur la mer démontée, puis en réponse au mot « Viens », le disciple imite son maître, et Pierre, soutenu par la puissance divine, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Seul l'amour et la foi agiront ainsi, et le Seigneur en est tout réjoui.
L'acte de Pierre, dans cette scène si touchante, a soulevé bien des questions. Au point de vue spirituel, seule existe l'appréciation du Seigneur lorsqu'il quitte le bateau. Quels que soient les motifs qui les fait agir, ils étaient tout à son crédit. Il désirait être près du Seigneur, il avait raison. La prudence et le souci de sa propre personne l'auraient fait rester dans la nacelle. L'affection et la foi le poussent à quitter tout ce sur quoi repose la nature. Quelqu'un, avec moins de zèle et moins d'énergie, se serait épargné semblable défaite et aurait attendu que le Seigneur entrât dans la barque. Pierre ne doute pas une minute qu'il avait son maître bien-aimé devant lui, car ce « si c'est toi » n'implique aucun doute. Heureux de le voir marcher avec puissance sur les éléments déchaînés, il compte également sur l'amour du Seigneur qui désire avoir son serviteur auprès de lui. Étourdi et emporté, Pierre, conséquent avec lui-même, car il n'est pas hypocrite, laisse échapper ces mots.
« Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. »
À ce seul mot de réponse « Viens », il obéit. Ne pas le faire aurait été désobéir.
Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus.
Il en avait reçu l'autorisation divine par le mot « Viens ». La puissance divine, il le savait, ne lui manquerait pas, puisque, maintenant, il était en la présence de celui qui devait être Dieu pour pouvoir ainsi marcher sur les eaux. Il enfonça, direz-vous. Certainement. Mais pourquoi? Parce qu'il quitta la nacelle? Non. Il est dit.
Il marcha sur les eaux pour aller à Jésus.
Pour un instant, il fut comme son maître. Mais alors, que se passa-t-il? Aussi longtemps qu'il tint les yeux sur le Seigneur, tout alla bien. Mais au moment où
il vit que le vent était fort,
il enfonça. Le vent était aussi violent, les vagues aussi houleuses que l'instant d'avant. S'il quittait le bateau, il savait que Christ le soutiendrait, sinon il se noierait. S'il avait gardé les yeux fixés, comme au premier moment, sur la personne du Seigneur, tout serait bien allé. Mais sitôt que les circonstances extérieures interviennent entre lui et le Seigneur, il commence à enfoncer. Il en est toujours ainsi. Aussi longtemps que j'ai Dieu entre mes circonstances et moi, tout va bien. Mais du moment que je laisse intervenir mes circonstances entre Dieu et mon cœur, tout va mal. Et, commencer à enfoncer, semble bien décrire la situation. La foi peut marcher sur les eaux les plus houleuses si nos regards demeurent fixés sur le Seigneur.
Fixant les yeux sur Jésus,
Hébreux 12, verset 2, devrait être notre devise, car nous devrions être à même de suivre ce sentier béni qui nous permet de nous élever au-dessus de tous les événements de notre vie. La chute de Pierre comporte un enseignement pour nous aussi. Le Seigneur estime très haut l'amour qui le poussa à agir ainsi. Ce que nous devons remarquer dans ce passage n'est pas tant sa chute que son identité avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il tombe.
« Je puis toutes choses en celui qui me fortifie »,
dira un autre serviteur plus tard. Philippiens 4, verset 13.
Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi !»
Pourquoi enfonçait-il? L'eau était-elle plus instable que par temps calme? Certainement pas.
Nous ne pouvons pas marcher plus facilement sur l'eau tranquille d'un étang que sur la vague houleuse, sans l'aide de la puissance divine. La puissance de Christ nous soutient, les uns et les autres,
au travers des circonstances les plus difficiles, tout comme dans les plus faciles, la puissance et la grâce de Christ nous suffisent. Quand Pierre crie, le Seigneur, étendant la main, le prie et lui dit, « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre avait la foi, bien qu'elle fût petite. La grâce de Christ, dans ce passage, est incomparable. Pierre n'atteignit pas le Seigneur, mais le Seigneur ne manqua jamais de le secourir en plus d'une occasion. Une chute, déjà, l'avait amené au pied de son Sauveur, et au moment d'une profonde détresse, il se retrouve dans les bras de son Seigneur. Son cri « Seigneur, sauve-moi » a été entendu, et il reçoit aussitôt la réponse. Dès que le Seigneur fut entré dans la nacelle, le vent cessa, et Jean 6, verset 21 ajoute « Aussitôt la nacelle prit terre au lieu où ils allaient. » Quelle beauté, quel calme se dégage sitôt que nous sommes en présence du Seigneur. Alors ils lui rendirent hommage disant « Véritablement, tu es le Fils de Dieu. » En Jean 1, Pierre avait reconnu en lui le Messie. En Luc 5, le Fils de l'homme est le Seigneur sur les poissons de la mer. Et ici, en considérant les gloires morales de sa personne, il le reconnaît comme Fils de Dieu. Chapitre 5. Un modèle de prière. Matthieu 15, versets 1 à 20. Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain ?» Mais lui, répondant, leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ? Car Dieu a commandé, disant, « Honore ton père et ta mère. » Et « Que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. » Mais vous, vous dites, « Quiconque dira à son père ou à sa mère, « Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. » Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Et ayant appelé la foule, il leur dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchant lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ?» Mais lui, répondant, dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Et Pierre, répondant, lui dit, « Expose-nous cette parabole. » Et il dit, « Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? N'entendez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et passe ensuite dans le lieu secret ? Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme. » Expose-nous cette parabole. C'est Pierre qui parle en entendant les discours du Seigneur qui dépassaient sa compréhension. Prenons cette courte phrase comme modèle de prière. Quelqu'un a dit, « Une prière est le désir sincère de toute âme qui soit exprimée ou sous-entendue. » L'apôtre souhaitait sincèrement comprendre la parabole et il en cherchait la signification dans le langage le plus simple. Cette demande si concise nous en rappelle une autre qui, comme celle-ci, va droit au but. « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie,
2 Rois 6, verset 17. Élisée et Pierre, tous les deux, se rappellent à qui ils parlent et n'usent pas de vaines paroles. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils le disent au Seigneur, puis se taisent. Ainsi doit être toute vraie prière. Plus longue, elle ne serait que verbiage, on ne pourrait que le déplorer. Quelle immense bénédiction ce serait si tous ceux qui prient voulaient bien y prendre garde, que ce soit à la maison, dans l'assemblée ou dans une réunion de prière. Les longues prières sont une erreur et un signe de faiblesse. En son particulier, là où personne ne voit ni n'entend, sinon Dieu seul, l'Écriture ne semble indiquer aucune restriction. Mais, en public, on devrait éviter les longues prières. Veillons à ce que dit Salomon.
Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu. Ne te presse point de ta bouche, et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses.
Ecclésiaste 5, versets 1 et 2. Pierre observait ce conseil en disant simplement au Seigneur,
« Expose-nous cette parabole. »
Aussi reçoit-il une réponse directe et immédiate. Ce qui le poussa à formuler cette demande est instructif. Les pharisiens venaient d'accuser les disciples de manger avec des mains non lavées. Jésus répond que Dieu regarde au cœur et non aux mains, à ce qui est intérieur et non à l'extérieur. Les Juifs, préoccupés des formes et des traditions, comme tous les hommes, employaient le nom de Dieu et, sous le couvert de la piété, l'employaient en vain. Écoutons le Seigneur. Dieu a commandé disant
« Honore ton père et ta mère »
et
« Que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. » Mais vous, vous dites « Quiconque dira à son père ou à sa mère « Tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est un don, et il n'honorera point son père ou sa mère. » Et vous avez annulé le commandement de Dieu à cause de votre tradition.
Versets 4 à 6. Si un enfant négligeait ses parents, prétendant se dévouer à Dieu, par un sacrifice au profit du sacrificateur, je suppose, ou s'il négligeait ce qui leur était dû, on admettait qu'il avait raison. Il n'avait qu'à crier « Corban », c'est-à-dire « C'est un don », et les parents pouvaient être oubliés. Le Seigneur les appelle « hypocrites ». Et cite les paroles solennelles d'Ésaïe.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi.
Ensuite, le Seigneur appelle la foule et leur dit.
Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme.
Il en avait fini avec le judaïsme et faisait entendre la vérité que l'homme est perdu. Les pharisiens s'en montrent grandement offensés, mais le Seigneur ajoute
« Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée.
Il faut une vie nouvelle donnée par Dieu et ne pas chercher à améliorer l'ancienne. Ce jour est passé.
Laissez-les, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. »
Tel était l'état des conducteurs d'Israël à cette époque. Entièrement aveugles, ils ne connaissaient pas Jésus, ni leurs propres besoins. Leurs conditions et leurs fins sont nettement décrites.
Aveugles, conducteurs d'aveugles.
De nos jours, nous faisons les mêmes observations quand le catholicisme et le ritualisme, par leurs conducteurs aveugles, conduisent leurs adeptes dans une fosse. Leurs moyens et leur formalisme n'étant qu'une copie de ceux du défunt judaïsme, celui dont le Seigneur sonna le glas dans ce chapitre, et que Dieu abattit définitivement lors de la mort de Christ à la croix. Le christianisme est un système d'un tout autre ordre. Sa source est dans le dernier Adam, non dans le premier. Son centre et son tout, c'est Christ lui-même, son amour. Son œuvre, son sang, son sacrifice, sa personne même, tout ce qu'il possède sont son alpha et son oméga. Aussi ce n'est plus l'aveugle conduisant l'aveugle, ni même le voyant conduisant l'aveugle, mais c'est le clairvoyant conduisant le clairvoyant. Cette lumière n'avait pas encore complètement brillé, c'est pourquoi nous entendons Pierre dire « Expose-nous cette parabole, qu'il puisse nommer une vérité, parabole, c'est-à-dire parole obscure, paraît étrange, mais pour lui, qui avait encore confiance dans le vieil homme, l'enseignement du Seigneur devait être extraordinaire et même insaisissable. La réponse du Seigneur lui révèle son aveuglement.
« Et vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?»
etc. Tout le problème réside dans ce que l'homme est en lui-même. La source, le cœur, est désespérément corrompu, donc ce qui s'en échappe doit être du même ordre.
Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais de manger avec des mains non lavées ne souille pas l'homme.
L'homme doit être né de nouveau, de l'eau et de l'esprit. Jusqu'à la nouvelle naissance, tout est vain. Ce qui scandalisait le pharisien propre juste et semblait inintelligible aux disciples n'était que la vérité, la simple vérité en ce qui concerne le cœur de l'homme, puisque Dieu connaît ce cœur dans lequel il lit. C'est une chose immense que de connaître la vérité, donc le pire au sujet de soi-même. Rien de plus simple, ni de plus satisfaisant que la vérité, car elle nous place dans une relation exacte avec Dieu. Jésus est la vérité. Il le prouve ici très solennellement, mais ne s'arrête pas là. Il est plein de grâce, et plus tard il mourra à cause de la ruine qu'il dévoile ici. L'époque des formes extérieures est passée. L'homme irrémédiablement perdu a besoin d'une vie nouvelle. Comment il la reçoit nous est révélé ailleurs.